Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui, malgré les éléments météo. Il vous a été distribué à l'entrée de ce colloque un dépliant sur le site La Vie des Idées. En effet, je voulais dédier ce colloque aux animateurs de ce site, un site qui, justement, à l'âge de la post-vérité, met, lui, tous ses efforts pour redonner sa place à une analyse approfondie, une analyse scientifique, une analyse informée du monde contemporain et de la production intellectuelle. Et je voulais donc, en faisant circuler diffuser cette petite brochure présentant le site au début de ce colloque, rendre hommage à toute l'équipe de rédacteurs en chef, à l'équipe de secrétaires de rédaction qui, autour de Florent Guénard, anime ce site et en ont fait une institution presque, puisque maintenant, ce site a plus de 400 000 visiteurs uniques par mois. Ce colloque est organisé de façon très simple, en deux temps. Pendant cette matinée, nous essaierons de définir la situation présente, cet âge de la post-vérité, pour voir comment le caractériser, comment il est advenu et comment aussi, peut-être, il s'est récemment aggravé, avec notamment l'analyse qui sera faite du monde de l'Internet dans l'entrée dans ce nouvel âge. Et puis l'après-midi sera consacré à une analyse à la fois des expérimentations et des conditions scientifiques dans lesquelles on peut imaginer que cette tendance puisse être contrecarrée et inversée. Il y a en effet une urgence pour nos démocraties de sortir de cet état de choses présent. La démocratie à l'âge de la post-vérité implique d'abord de rappeler quelque chose de très simple. C'est qu'il y a trois conditions, on pourrait dire trois préconditions, à l'accomplissement démocratique. Il y a d'abord la confiance des citoyens dans les institutions et les gouvernants. La confiance, on l'a dit depuis longtemps, fait partie de ces institutions invisibles avec la légitimité et avec l'autorité qui permettent d'économiser des institutions elles-mêmes, des procédures, et qui, dans l'ombre des sociétés, si j'emploie ce terme d'institution invisible, c'est en effet parce que je fais référence à un livre les plus célèbres de sciences politiques de l'après-guerre, qui est le livre de Guglielmo Ferrero, qui s'appelait « Les génies invisibles de la cité », et qui était une réflexion sur le fait que le pouvoir ne pouvait pas simplement être défini comme un rapport de force et comme un ensemble d'institutions, mais qu'il devait aussi être défini à partir de ces institutions invisibles, qui sont donc au nombre de trois. La confiance, c'est la possibilité de faire une hypothèse sur le comportement futur de quelqu'un, et la confiance a donc également une fonction de projection démocratique. C'est-à-dire que la confiance prolonge dans le temps ce qui peut résulter d'une procédure comme l'élection, qui établit instantanément une forme de rapport, la confiance étant dans la durée ce moment procédural. La deuxième précondition de l'accomplissement démocratique, c'est bien sûr la capacité des citoyens à délibérer rationnellement de l'intérêt général, à exprimer leurs différends et à sélectionner sereinement leurs représentants et leurs gouvernants. La troisième précondition de l'accomplissement démocratique, c'est la possession d'un langage commun pour décrire les faits et affronter la vérité, autant que pour formuler des désaccords et des convergences également. Il y a un nom qui s'impose comme étant celui qui a, dès la fin du XVIIIe siècle, le plus longuement réfléchi à ces trois préconditions, c'est bien sûr le nom de Condorcet. Et c'est donc sous l'égide de Condorcet, en quelque sorte, que je présente cette introduction. Condorcet a souvent été cité et souvent été lu comme étant l'auteur du théorème du jury. Le théorème du jury de Condorcet, vous le savez, démontre que lorsque un grand nombre d'individus votent sur une question binaire, les résultats majoritaires peuvent correspondre à la vérité, entre guillemets, si trois conditions sont respectées, une condition de l'hypothèse éclairée, une condition d'indépendance et une condition de sincérité. Condorcet a ainsi été, pourrait-on dire, le premier théoricien de la démocratie épistémique. Et Juliette Roussin fera, à la suite de mon exposé, une présentation de l'état de la réflexion sur la démocratie épistémique aujourd'hui. Mais Condorcet, outre cette approche épistémique de la démocratie, est aussi celui qui a probablement, dès les premiers jours de la Révolution, le plus réfléchi au développement et à l'établissement de ces trois préconditions que sont justement la confiance, la capacité des citoyens et l'élaboration d'un langage commun. Cette confiance qui était établie dans un rapport d'élection, elle a été réfléchie par Condorcet comme étant liée à des formes spécifiques d'élection. Et Condorcet a réfléchi au fait que pour qu'une élection soit véritablement sincère, une élection sincère, c'est une élection qui cherche à distinguer la vertu, une élection qui cherche à distinguer la compétence, il fallait des élections sans candidat. En effet, si une élection est l'affrontement d'ambitions personnelles, si une élection est le débat, en quelque sorte, pour la conquête d'un avantage qui serait celui d'être représentant, alors l'élection est faussée. Et ce message a été entendu, puisque c'est une chose qui n'est pas très connue, mais pendant toute la Révolution française, les élections ont eu lieu sans candidat. Alors ça posait beaucoup de problèmes, parce que les assemblées pendant la Révolution française, les assemblées électorales, sont des assemblées d'un millier de personnes, et si un millier de personnes doivent élire une personne sans qu'il y ait de candidat, eh bien, il y a beaucoup de tours de scrutin. Et en moyenne, ça prenait 2 journées. Parce qu'au premier tour, il y avait 150 noms qui apparaissaient, et puis il fallait comme ça une vingtaine de tours pour arriver simplement à un seul nom. Et pour les élections de second degré, qui étaient très importantes pendant la Révolution, ce temps imposé par le fait qu'il n'y ait pas de candidat arrivait à un phénomène un peu inquiétant, c'est qu'à Paris, par exemple, on votait 180 jours par an environ, puisqu'il y avait beaucoup de candidats, et qu'il y avait beaucoup de postes à pourvoir, et que pour pouvoir ces postes, il y avait à chaque fois 2-3 jours de scrutin, eh bien, c'était très long. Mais le fait qu'on ait maintenu, pendant la Révolution, malgré tous les problèmes pratiques posés, cette pratique d'élection sans candidat, montrait que l'on accordait à cette dimension de la confiance une importance tout à fait particulière. Et que cela a été, je dirais, un des ressorts essentiels de la vision électorale pendant la Révolution française. Le deuxième point qui a été spécialement réfléchi et travaillé par Condorcet, c'est bien sûr celui de la capacité des citoyens. La démocratie, pour lui, est une démopédie. Et c'est le grand leitmotiv de tous ses mémoires et rapports sur l'instruction publique qui ont été particulièrement nombreux. Et qu'un peuple ne peut être un peuple qui entre en démocratie que s'il est éclairé et que s'il a la capacité de faire des bons choix. Selon la formule de l'époque de Mirabeau, qui était reprise par pratiquement toutes les personnalités révolutionnaires, il disait que l'ambition de l'époque et l'impératif de l'époque était, je le cite, de combler l'intervalle immense qui existe entre les institutions et les habitudes. Cette vision démopédique chez Condorcet, elle était inscrite dans une vision à la fois hiérarchisée et unifiée du savoir. Et il a de longs développements dans un de ses mémoires sur l'instruction publique sur les conditions dans lesquelles on peut éviter que se mettent en place ce qu'il appelle les charlatans politiques. Et pour qu'il n'y ait pas de charlatans politiques, disait Condorcet, eh bien, il faut qu'il y ait une gradation de compétences entre le citoyen et l'élu. Et donc, une même chaîne de savoir allant de la maîtrise la plus modeste du savoir à la maîtrise la plus élaborée, fasse le lien entre les citoyens ordinaires et ceux qui le représenteront. De cette façon, on peut dire que le suffrage universel a été conçu comme un droit anticipateur d'un État social dans lequel tous les citoyens deviendraient éduqués. Et cette dimension anticipatrice du suffrage universel, pendant la Révolution française, a été illustrée au premier chef par la Constitution, qui est la dernière Constitution révolutionnaire, celle de l'an 8, dans laquelle il est indiqué que l'on donne à tous les citoyens un répit de 12 ans pendant lequel ils doivent devenir des citoyens éduqués et des citoyens utiles aux autres, et qu'au-delà de cette période de 12 ans, s'ils ne sont pas devenus des citoyens éclairés, eh bien, ils n'auront plus le droit de vote. Mais Napoléon, ayant fait un coup d'État avant la fin des 12 ans, la mesure n'a pas pu être mise en place. Mais on peut dire que dans toute la philosophie de Jules Ferry, il y avait bien cette idée qu'au fond, le suffrage universel était une anticipation d'une situation dans laquelle tous les citoyens se seraient également éclairés. Le troisième élément de réflexion de Condorcet est celui d'une réflexion sur les conditions de constitution d'un langage commun. Condorcet, c'est peut-être un des points les moins connus de son œuvre, a été le fondateur d'un périodique qui s'appelait le Journal d'instruction sociale. Journal d'instruction sociale qu'il a dirigé au début 1793 avec Sieyès et avec Duhamel, qui était le directeur de l'Institut des Sourds-Muets. En effet, dès le début de la Révolution, on voit une préoccupation, c'est le fait que la démocratie est parasitée par l'abus des mots, par le fait que les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde, et que s'il n'y a pas un langage commun, eh bien, le débat politique ne peut pas être un débat rationnel. Et, dit Condorcet, la crise du langage est toujours une crise du lien social et une crise de la politique. Et c'est pour cela qu'il a créé ce journal d'instruction sociale, qui s'est présenté comme ayant pour objectif de combattre les charlatans politiques en proposant aux citoyens le fait de pouvoir parler une même langue. Et donc, chaque numéro de ce journal était consacré à éclairer des grands termes de la période révolutionnaire, la notion de peuple, la notion de représentation, la notion de révolution même. Condorcet disait en effet « La raison est une et n'a qu'un langage, et l'altération du sens des mots en indique une dans les choses mêmes ». Et donc, c'est l'imperfection de la langue qui est aussi la cause de tous les malheurs démocratiques, car en effet, si les mots ne sont pas fixés de façon certaine, eh bien alors, le débat public ne peut pas avoir lieu, et l'abus des mots est le nom que l'on peut donner à ce qu'on appellerait aujourd'hui la démagogie. Et le problème du langage, en effet, disait-il, ce n'est pas simplement celui de la constitution, ce n'est pas simplement celui de la communication entre les citoyens. Il disait, le langage, c'est la condition de l'accès à la réalité. Et s'il n'y a pas un même accès à la réalité, eh bien, les citoyens ne pourront pas être des citoyens qui délibèrent rationnellement. Et il a développé dans cette revue ce qu'il a appelé les effets catastrophiques de la confusion des langues. Et la confusion des langues, disait-il, c'est le moment, justement, où la démocratie peut basculer dans la tyrannie. La confusion des langues, c'est le moment, justement, où les mots deviennent si indéterminés qu'ils permettent de confondre, par exemple, l'ami et l'ennemi. L'indétermination dramatique du langage et des concepts politiques, dit-il encore, empêche de distinguer clairement les choses. Et Condorcet voyait, à ce moment-là, à l'été 1793, dans l'inflation de la catégorie du suspect, qui justement mettait un espèce de voile flou entre pour distinguer l'ami et l'ennemi, avait été le vecteur à la fois d'une perte de rapport à la réalité par des mots fluctuants et le début, justement, de la période de la terreur. Dans ce cas-là, disait-il, les mots ne servent plus à révéler des réalités, mais à voiler des intentions et à introduire des confusions. Il disait, ce qu'on peut reprocher aux robespierristes, c'est qu'ils ont ôté à tous les mots de la langue française leur véritable sens. On peut dire que, après la Révolution française, toute l'histoire du XIXe siècle peut être comprise comme une réaffirmation et un travail de ces différentes notions. Travail des conditions dans lesquelles la confiance pouvait être établie, travail des conditions dans lesquelles le citoyen éduqué pouvait être institué, réaffirmation et travail des conditions dans lesquelles une langue commune pouvait être mise en place. Et toute la philosophie politique de la République a été une philosophie politique de la confiance, une philosophie politique de l'éducation et une philosophie politique du langage commun, avec le sens souvent d'une grande urgence, car, disait Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement, si nous n'éduquons pas le maître inculte, le suffrage universel pourra nous conduire à la tyrannie. Mais en même temps qu'il y avait cette utopie de développer ces trois préconditions de la vie démocratique, il y avait la reconnaissance qu'elles avaient un caractère problématique elles-mêmes. En effet, le suffrage universel, c'est à la fois, bien sûr, la recherche des capacités, l'exercice des responsabilités par des citoyens informés. Mais le suffrage universel, c'est aussi un statut. Le droit de vote, c'est aussi un statut. C'est aussi non plus une capacité, non plus une fonctionnalité, mais un droit. Et qu'il y a toujours une tension entre le droit et la fonction. De la même façon, on peut dire que le propre du suffrage universel, c'est de chercher à pacifier la société par une mise en équivalence des raisons. Le fondement du suffrage universel, c'est que le vote ne hiérarchise pas les raisons de l'électeur. L'électeur peut se décider dans le secret de l'isoloir parce qu'il a justement longuement réfléchi qu'il est ce citoyen instruit, qu'il est ce citoyen désintéressé, mais il peut aussi se décider par ses passions. Il peut aussi se décider en fonction de ses préjugés. Il peut se décider aussi en fonction d'éléments purement contingents. Et donc, le propre du suffrage universel, paradoxalement, c'est de requérir un citoyen éduqué, mais d'être fondé sur le principe, enfin sur l'acceptation plutôt, sur l'acceptation du fait qu'il n'y a pas de différence entre la raison et l'opinion. Qu'il n'y a pas de différence entre la conviction et le préjugé, qu'il n'y a pas de différence entre la passion et la réflexion. Et que cela, c'est la condition même de la pacification sociale. Car s'il faut hiérarchiser les raisons, qui sera le juge de cette hiérarchie ? S'il faut distinguer l'opinion de la passion, la conviction de la réflexion, qui sera le juge ? Alors certains, à un moment, ont pensé justement qu'il fallait établir une hiérarchie de ces motivations du vote. Et en Belgique, par exemple, il a été mis en place pendant toute une période, à partir de 1883, un examen pour être électeur. Donc on faisait passer un examen pour être électeur. Alors chacun sait qu'il y a trois façons de choisir des personnes. On peut choisir des personnes en les tirant au sort. Cela veut dire qu'on peut choisir, on valorise le quelconque, si je peux dire. On peut choisir quelqu'un par l'élection, avec les différentes indéterminations que j'ai dit, et on peut choisir quelqu'un par un examen ou un concours. Mais qui dit examen ou concours dit programme et dit jury d'admission. Et on voit très bien que l'on ne pourrait pas mettre en place un concours ou un examen du président de la République, car ceux qui auraient à être membres du jury seraient difficiles à déterminer, et le concours des matières mettre en place serait aussi difficile à déterminer. Pour toutes ces raisons, le suffrage universel, avec cet idéal de la rationalité du citoyen, en même temps était un idéal qui, pratiquement, a été confronté à cet affrontement, à une vision de l'égalité qui affaiblit, en quelque sorte, cette notion de rationalité du citoyen. Et c'est pour cela, pourrait-on dire, que la situation présente que nous vivons serait vécue par Condorcet comme un cauchemar. Et si je devais donner à cet exposé d'introduction un titre, je l'aurais appelé « Le cauchemar de Condorcet ». Comment, en effet, dans une société dans laquelle le niveau moyen d'éducation a autant progressé, comment, dans une société dans laquelle l'effort d'éducation a fait des questions de la langue quelque chose d'aussi important, comment dans cette société vivons-nous la confusion des langues, vivons-nous la confusion de la raison et de l'opinion, et comment dans cette société vivons-nous une érosion aussi importante de la confiance avec le développement de la défiance. Il y en effet actuellement, et si on peut dire ce qui caractérise au sens le plus large du terme cet âge de la post-vérité, un affaissement de ces trois préconditions que j'ai mentionnées. Un affaissement de ces trois préconditions et une exacerbation des tensions structurantes de la démocratie. Érosion de la confiance, tout d'abord. Et cette érosion de la confiance est d'autant plus marquée qu'il s'est lié au déclin des deux autres institutions invisibles. Déclin de l'autorité et déclin de la légitimité. L'autorité, on le sait, se définit par le fait de pouvoir prendre des décisions ou énoncer des principes qui soient suivis sans que l'on ait recours à la force ou sans qu'on ait recours à la persuasion par argument. Ce sont les développements qui ont été faits fameusement par Kojève et Arendt sur la question. Cela veut dire, d'un certain point de vue, qu'il y a une contradiction entre l'idée même d'autorité et celle de démocratie, puisque la démocratie, en son principe, fait débat de toute chose, alors que l'autorité présuppose qu'il y ait la possibilité, par un statut détenu par des personnes, d'imposer ses vues, d'imposer son savoir, sans être discuté. On peut dire que l'autorité définit, en ce sens strict du terme, un monde qui est un monde qui tient soit à la tradition, soit à la religion. Et que dans une société sécularisée, dans une société démocratique, il y a, dans ce sens originel et strict du terme, un déclin de l'autorité. Qu'il y a aussi, pourrait-on dire, un déclin de la légitimité. Il y a un déclin de la légitimité qui est lié très simplement dans nos sociétés à la coupure croissante entre le moment électoral et le moment gouvernemental. La légitimité, elle est donnée par le fait qu'il y ait l'onction d'une majorité, ou d'une très grande majorité, ou d'une petite majorité, mais peu importe, qu'il y ait une onction de la généralité sociale. Et il y a la présupposition que dans cette onction électorale, il y a la promesse, je dirais, d'un engagement dans le temps, puisque une personne qui est élue n'est pas simplement élue en fonction de ses talents personnels, mais élue aussi en fonction des idées, et donc des programmes, et des projets qu'il représente. Or, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles la coupure est de plus en plus grande entre le moment électoral et le moment gouvernemental, parce que nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés dans lesquelles l'indétermination domine, dans lesquelles la planification dans le temps recule, et donc où cette projection dans le temps de l'élection est remise en cause. Et dans ces conditions-là, la confiance joue un rôle de plus en plus fort. On devrait jouer un rôle de plus en plus fort. Dans un monde dans lequel l'autorité décline et dans lequel la légitimité est affaiblie, la confiance devient essentielle. Or, cette confiance elle-même s'érode. Elle s'érode parce qu'il y a un caractère affaibli de la représentation dans l'élection. Il y a un caractère affaibli de la confiance parce qu'il y a un sentiment de désappropriation, un sentiment d'opacité dans le monde politique. Et que du coup, progressivement, l'idée des élites, l'idée des experts, constitue une réalité en soi et non plus simplement un élément de structuration de chaque milieu, ce qui en effet caractéristique du monde politique du XIXe siècle, c'est que chaque milieu avait ses élites, chaque milieu avait ses experts, et qu'il ne formait pas ce qu'on pourrait appeler un groupe social, mais était un élément de la vie d'une communauté ou d'un milieu social déterminé. Tout à fait frappant est à cet égard l'exemple du Parti communiste, qui était un parti qui avait à la fois ses artistes, qui avait à la fois ses savants, qui avait à la fois ses technocrates, d'une certaine façon. Et donc, au moment où la confiance devrait être l'institution invisible centrale, elle est fortement affaiblie. Deuxième affaiblissement, c'est celui de la déconstruction de la raison et de la relativisation de la vérité. C'est pour nous, évidemment, la question essentielle de ce colloque. Et cette déconstruction, cette relativisation, elle a deux dimensions très différentes. Elle a une première dimension, et on y reviendra, bien sûr, dans le colloque, notamment, je pense, au moment de l'exposé de Gérald Bronner. Elle a d'abord une dimension cognitive. Elle a une dimension cognitive avec deux éléments sociologiques. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la multiplication des demi-savants à l'âge de l'éducation de masse. Et cette multiplication des demi-savants ou des demi-connaissants entraîne un certain relativisme et abaisse la distinction entre le savoir et l'opinion. Et d'autre part, la complexification du monde et son opacité entraînent le développement de rationalités compensatrices, du type de celles qui s'affirment avec les théories complotistes, qui donnent le sentiment à certains de reprendre possession du monde et de le percevoir avec une certaine cohérence. Et ces deux faits abaissent mécaniquement l'autorité du savant et de l'expert. Et donc, la conception qu'il y a aujourd'hui de la connaissance est affaiblie de ce fait même. Carlo Ginzburg parlait à propos de l'Italie des problèmes posés par des attaques sceptiques. Et je crois que alors que le scepticisme informé peut être un moteur de la connaissance, alors que le soupçon argumenté peut être aussi un moteur à la fois de la connaissance et de la vie publique, les attaques sceptiques, au contraire, sont le moyen d'organiser confortablement une dissociation de l'opinion et de la connaissance, de l'opinion et de la vérité. Et nous verrons tout à l'heure les conditions dans lesquelles il peut y avoir eu un rôle accélérateur de l'Internet dans ces phénomènes. Et chez des personnes de plus faible niveau d'éducation, pourrait-on dire, il y a un certain confort dans le refuge, dans les théories complotistes, parce qu'elles vont remplir, au-delà de la dimension cognitive que j'ai précédemment mentionnée, une fonction d'identification politique. Et c'est la raison pour laquelle, hélas, aujourd'hui, la guerre des vérités ou la guerre des raisons redouble la vision d'un monde bipolaire constitué par ce qui serait l'opposition entre un peuple et des élites. Et qu'elle est, d'une certaine façon, cette guerre des vérités, à la fois un substitut et une des formes contemporaines de la lutte des classes. Et ce phénomène est d'autant plus marqué qu'est perçu dans l'opinion le poids d'une vision technocratique ou d'une vision experte qui considère que nous vivons dans lequel, que nous vivons dans un monde dans lequel il n'y a pas le choix. Et moins les différends, moins les indéterminations sont reconnues, plus les croyances et les convictions s'imposent comme des formes d'opposition et de résistance à des raisons et à des savoirs qui ne sont perçus que comme les expressions de formes de domination sociale. Et par construction, les arguments pèsent donc peu ou pas du tout pour critiquer ces croyances et ces convictions. À côté du précédent ressort cognitif de déconstruction de la vérité, il y a donc un ressort politique et social absolument essentiel dans cette déconstruction. Et je n'ai pas à insister sur les conditions de destruction du langage commun. Le fait est que ces trois éléments, déclin de la confiance, relativisation de la vérité et destruction du langage, vont de pair et s'auto-alimentent en formant le cercle mortel, pourrait-on dire, pour la démocratie de la post-vérité, et qu'ils constituent à leur façon une dimension du populisme comme forme politique. Le populisme comme forme politique, au sens où j'ai essayé de le définir dans un des cours ici, et non pas simplement comme vague dénomination de ce qui serait un style politique. Et le but de ce colloque, cet après-midi en tout cas, sera d'essayer d'appréhender les conditions dans lesquelles on peut à la fois restaurer la confiance, on peut rétablir en quelque sorte une unité de la raison qui remédie à cette dissociation mortelle de la raison et de l'opinion et qui reconstruit des éléments d'un langage commun. C'est donc peut-être d'autres pratiques de la raison, d'autres pratiques politiques aussi, qu'il faudra développer pour parvenir à remédier à ce qui devient aujourd'hui non pas un problème que l'on a pu penser à un moment comme mineur, mais comme un problème structurant l'avenir même de nos démocraties. C'est en effet, quand on voyait ces problèmes il y a quelques années, on les imaginait comme relativement marginaux, alors que l'on voit maintenant qu'ils sont véritablement au centre de l'évolution des démocraties, et cela partout dans le monde. Et que donc, si le XXe siècle était le siècle, pourrait-on dire, de mise en danger des démocraties par des formes de totalitarisme, aujourd'hui, la grande mise en danger des démocraties est à travers ces différentes modalités qu'on a rassemblées sous le titre de l'âge de la post-vérité. C'est donc dire que ça n'est pas simplement une réflexion de savant, une réflexion sur la connaissance qui s'inquiéterait, qui s'alarmerait d'un certain nombre d'évolutions problématiques, mais qu'il y a une évolution qui peut être beaucoup plus grave et toucher au cœur nos sociétés elles-mêmes. Après cette introduction, je vais donc tout de suite donner la parole à Juliette Roussin. Juliette Roussin, qui est maître de conférence au Collège de France, qui a terminé il y a relativement peu de temps sa thèse justement sur l'évolution de la théorie, des théories normatives de la démocratie épistémique, va nous rappeler ce qui est très important pour notre propos, les conditions dans lesquelles ont été formulées des théories de la démocratie reposant sur cet idéal de rationalité, et elle va nous aider à évaluer les conditions dans lesquelles ces théories ont à la fois essayé d'aller beaucoup plus loin que ce qu'indiquait Condorcet, mais en même temps peut-être de buter sur les mêmes problèmes que celui-ci a rencontré et que nous rencontrons nous-mêmes aujourd'hui. Donc, la parole est à vous, Juliette.